conservateur général du patrimoine et a longtemps dirigé le musée d'Île-de-France à Sceaux, où il a développé les collections, créé un centre de documentation, un service éducatif également, et organisé de nombreuses expositions et concerts. Fervent défenseur des monuments et des sites, M. Poisson est à l'origine de très nombreuses campagnes qui ont été couronnées de succès. Le sauvetage du château de Monte Cristo, la restauration de la grande perspective de Meudon, et aussi des actions déterminantes à la maison de Châteaubriand, à la vallée au Loup, ainsi qu'à celle d'Émile Zola à Meudon. Alors, Monsieur Poisson est aussi administrateur de la fondation Goury-Lafont, et je précise ce point ce soir parce que c'est grâce à la fondation Goury-Lafont que les amis ont pu restaurer les pièces que vous voyez ici, que nous appelons donc désormais l'appartement des amis, depuis 2014. Donc M. Poisson a publié de très nombreux ouvrages notoires et a été 5 fois lauréat de l'Académie française, et à paraître, mi-mars, fin mars, Henri V et la guerre des drapeaux, aux éditions Michel de Maulle, et c'est sur ce sujet de la guerre des drapeaux que je laisse la parole à M. Poisson. Merci encore.
En janvier 1871, Paris capitulait après quelques derniers combats. Il fallait faire la paix, mais Bismarck, à ce moment-là, n'a pas voulu traiter avec le gouvernement dit de la défense nationale, qui s'était emparé du pouvoir par un coup d'État contre l'Empire, et il a voulu traiter avec un véritable gouvernement élu. Donc, il a fallu très rapidement lancer une campagne électorale pour une élection qui devait avoir lieu le 8 février. Donc, il n'y a jamais eu dans l'histoire de la démocratie une campagne électorale si rapide. Il y avait 768 sièges à pourvoir. Mais on pouvait à ce moment-là se présenter dans plusieurs départements. Et beaucoup de chefs politiques se présentaient dans plusieurs départements. Et puis, s'ils étaient élus dans plusieurs, ils choisissaient celui qui leur plaisait. Et par conséquent, ça entraînait par la suite des élections partielles pour combler les trous. Alors, la campagne électorale a commencé. Les républicains étaient considérés comme des hommes de guerre. Ils voulaient continuer la guerre. Alors qu'à droite, au contraire, les électeurs se tournaient vers les anciens notables, vers ceux qui pensaient leur donner un peu de pouvoir. Ce qui fait que finalement, le résultat a donné 600 élus monarchistes et 200 élus républicains. Et les monarchistes vont garder la majorité pendant toute l'histoire de l'Assemblée, comme nous allons le raconter bientôt. Seulement les royalistes, tout en étant majoritaire, était divisé en deux parties. Deux parties qui avaient chacun leur héros. Alors le premier, c'était Henri, comte de Chambord. Henri, comte de Chambord, petit-fils de Charles X, est héritier des Bourbons, qui avait à ce moment-là 50 ans. Il était né six mois après l'assassinat de son père, le duc de Berry, et il avait été titré à ce moment-là duc de Bordeaux, et il avait mené une enfance très joyeuse entre sa mère Marie-Caroline, qu'il aimait beaucoup, et son grand-père, le roi Charles X, qui aussi l'aimait. Et pour cet enfant de 10 ans, la révolution de 1830 a été un choc terrible. Il a vu le roi abdiquer en sa faveur à lui. Il a été le roi lui-même en titre pendant 8 jours. Et il a surtout garder le souvenir de ce long départ de la famille en exil à travers la Normandie. Charles X avait exigé de partir lentement et aussi solennellement que possible, et dans cette Normandie qui était de plus en plus illuminée de drapeaux tricolores qui ont frappé l'enfant. Et il a gardé de cette vision une impression définitive, et en particulier à l'étape de Valognes, quand la famille est arrivée à Valognes, en Cotentin. Valognes était à ce moment-là, on l'appelait le Versailles de la Normandie, parce que c'était une ville ravissante qui était peuplée d'hôtels anciens, qui était presque entièrement démolie, détruite complètement stupidement en 1944. Et c'est là qu'à Valognes, le roi Charles X s'est fait remettre par les représentants de ses gardes du corps l'étendard blanc de chaque compagnie de gardes du corps, et en leur disant: j'espère qu'un jour mon petit-fils aura la joie de vous les rendre. Et cette scène a marqué la mémoire de l'enfant jusqu'à sa mort. Et puis l'exil a commencé. Et l'exil s'est traduit par le fait d'être séparé de sa mère. Parce que, à la suite de l'équipée de Marie-Caroline, duchesse de Berry, en Vendée et à Nantes, qui a fini par la renvoyer en prison à Blaye, Charles X a dit qu'il ne voulait plus qu'elle s'occupe de ses enfants. Ce qui a été vraiment une décision tout à fait grave et très discutable. Ce qui fait que le jeune duc de Bordeaux, retiré à sa mère, a été élevé par sa tante, la duchesse d'Angoulême, avec beaucoup d'affection, mais une éducation aberrante, totalement tournée vers l'ancien régime, vers la réaction, vers le droit royal, etc. Le duc de Bordeaux, qui a pris à ce moment-là le titre de comte de Chambord, pour en hommage à ce château de Chambord qui lui avait été donné par toute la nation française par souscription à sa naissance, était un homme consciencieux, dévot, tout à fait imbu de l'idée royale, et un peu un homme de parti, un homme d'opinion très arrêté et très déphasé par rapport à son époque. Il s'est installé au château de Frosdorf, qui Frosdorf se trouve à une vingtaine de kilomètres de Vienne. Le château existe encore aujourd'hui, mais il a été complètement massacré, occupé par 25 guerres successives et transformé en administration. Il n'y a absolument plus rien à l'intérieur. Et peu après son installation à Frosdorf, Chambord s'est marié. Et il s'est marié de façon épouvantable. Il est allé chercher la fille du duc de Modène, qui était laide, vieille, sourde,
impotente,
qui professait surtout un ultra réactionnaire incroyable. En même temps, elle détestait la France, dont elle estimait que c'était le pays des révolutions. Donc, c'était un choix étrange, Mais surtout, le drame, c'est qu'elle était Breuaigne et qu'elle n'a pas donné d'enfant au comte de Chambord. C'était la dynastie qui s'interrompait. Vraiment, la lignée des Bourbons se brisait. Ça a été, pour Chambord, une très grosse épreuve. À part cela, il faut noter qu'il jouissait en France d'une grosse popularité, une popularité qui va durer très longtemps. Il faut s'imaginer que son buste ou son portrait va trôner dans des chambres ou dans des salons pendant extrêmement longtemps, bien après sa mort. On voyait circuler à cette époque-là des pièces d'argent à son effigie qui n'avaient aucun cours légal et qui pourtant étaient admises dans le commerce. Tout ce que je viens de dire vous fait comprendre qu'il était avant tout braqué sur le drapeau, blanc. Le drapeau blanc, c'était pour lui le symbole d'un certain régime, d'une certaine façon de gouverner, d'une certaine façon de considérer le pouvoir royal. C'est une conviction qu'il a habitée jusqu'à sa mort. Le tricolore, en revanche, pour lui, c'était l'emblème de la Révolution. Aussi bien de la révolution de 89 que celle de 1830, et il était pris pour le tricolore d'une haine totale. Il n'a jamais compris la mystique du drapeau, qui justement, dans ces années 70, après la guerre de 70, se répandait énormément. Il suffit de lire Herman Chatrian ou Daudet pour voir l'importance que les gens attachaient au drapeau et aux symboles qu'il représentait, au drapeau tricolore, bien entendu. Alors donc, je vous ai dit, un premier parti, c'est celui du comte de Chambord. Un second parti, c'est celui de Philippe, comte de Paris, petit-fils du roi Louis-Philippe, qui était donc à la fois l'adversaire du comte de Chambord et en même temps son héritier, puisque Chambord n'avait pas d'enfant, la couronne devait passer normalement au comte de Paris. Il avait 34 ans, c'était un homme qui avait eu un peu la même situation de famille que Chambord. Il avait perdu son père de bonne heure et il avait été élevé par une mère assez intransigeante qui correspond un peu à la duchesse d'Angoulême. Il s'intéressait au fond pas tellement à la politique. C'était un érudit. Il s'intéressait à la botanique, il connaissait le nom de toutes les plantes d'Europe, il était modeste et pas très volontaire. Alors l'Assemblée, ainsi réunie, a décidé, après une première réunion à Bordeaux, a décidé de s'installer à Versailles. Et donc, on a d'une part transformé l'opéra en salle de séance. L'opéra qui avait déjà été abîmé par Louis-Philippe a été de nouveau massacré. Et l'Assemblée a dû installer ses bureaux dans le musée de Louis-Philippe, dont pas mal de toiles ont été décrochées et roulées. Et certaines le sont encore, après un siècle. J'espère qu'on les verra enfin ressortir un de ces jours. Et les monarchistes, donc, majoritaires à l'Assemblée, auraient dû aussitôt conquérir le pouvoir et mettre en place une équipe qui aurait pu ramener le roi. Mais ils ont préféré à ce moment-là laisser aux républicains ce qu'ils appelaient la sale besogne. Ce n'est pas tellement à prendre la responsabilité de négocier et de traiter de signer un traité de défaite. C'est ce qui explique que à la tête du pays, ils ont porté Thiers qui s'était distingué par son opposition à l'Empire, et même à la présidence de l'Assemblée, ils ont élu, sur la demande de Thiers, un vieux républicain qui s'appelait Jules Grévy. Alors, les pourparlers de paix ont commencé en février à Versailles. Thiers ne les a pas très bien menés. Thiers avait tendance à préférer l'argent au territoire. Donc, il avait tendance à céder sur les provinces et au contraire à accepter les décisions financières. Il disait, des provinces, on les reprend un jour ou l'autre, les milliards qui s'envolent ne reviendront jamais. C'est un état d'esprit un peu regrettable, car l'emprunt que le gouvernement a lancé pour payer l'indemnité de guerre a été couvert 10 fois. Donc, ça prouve qu'il y avait de possibilités financières. Enfin, la paix a été conclue sur ces bases. Il semble que Thiers aurait pu, en insistant beaucoup, sauver Metz, mais il n'y est pas arrivé. Et nous arrivons maintenant à la période la plus dramatique. Le 18 mars, le gouvernement de Thiers a voulu aller reprendre sur la colline de Montmartre des canons qui étaient et dont on avait peur qu'ils tombent aux mains des Prussiens. Cette reprise s'est faite de façon maladroite. Les Montmartrois et tous les gens d'opinion avancée ont cru que ces canons allaient servir contre eux. Il y a eu une émeute qui s'est formée très vite et les communards ont fait prisonnier 2 généraux, le comte et Clément Thomas, et les ont fusillés. Et à la nouvelle de cette insurrection, le Thiers et le gouvernement ont décidé de partir s'installer eux-mêmes à Versailles, et donc ils se sont installés un peu à la va-vite dans le château, en bousculant les bureaux de l'Assemblée. Tout le monde a essayé de se caser, et ça a été le début de la Commune. Pendant que Thiers, à Versailles, essayait de reconstituer une force armée, le 18 mai, on signé le traité de Francfort, et finalement, du 21 au 28 mai, c'était la semaine sanglante. Paris était à feu et à sang. Le 24 mai, les communards fusillaient les otages, dont l'archevêque de Paris. Et le 28, enfin, la dernière marécade tombait. La répression a été impitoyable. Et on a vu arriver à Versailles 15 000 communards venus à pied de Paris à Versailles, en loques, épuisés, qui défilaient sous les crachats et les injures de la population ou les coups d'ombrelle de certaines élégantes. Et ils ont été entassés dans leur rangerie et des conseils de guerre ont été immédiatement installés dans différentes salles du château et il y a eu un certain nombre d'exécutions dans le parc lui-même. Pendant ce temps, l'Assemblée essayait de trouver son chemin, de discuter sur la question du drapeau et en même temps les différentes opinions commençaient à se partager. Et en particulier les élus de droite, ceux qui étaient pour le comte de Chambord, ont souvert une nouvelle scission, c'est-à-dire qu'un groupe d'une soixantaine de députés d'extrême droite, d'extrême royalisme, tout ce que vous voudrez, champions du drapeau blanc, se sont mis à part et on les a surnommés les chevaux légers, parce qu'ils se réunissaient dans l'impasse des chevaux légers que vous connaissez ici à Versailles. Alors, l'Assemblée a commencé par abroger les lois d'exil, ce qui a permis à Chambord et au comte de Paris de récupérer tous leurs droits. Et très vite, le comte de Chambord a manifesté ses opinions et ses idées. Il voulait, dit-il, régner en roi. Il se souvenait d'ailleurs de la réflexion de Charles X, de son grand-père, où Charles X disait « Autant scier du bois que régner à la façon du roi d'Angleterre ». Il voulait régner véritablement, et son petit-fils également. Et ce qui explique que Ernest Renan, qui avait commencé par opter pour la restauration, a écrit finalement « Ce sera le règne du fatalisme et de l'ineptie ». Alors les chevaux légers étaient bien entendu accusés de vouloir rétablir la dîme et les droits féodaux. Ils étaient au fond beaucoup plus avancés que le comte de Chambord lui-même, qui avait beaucoup plus de raison et de réflexion. Et c'est ainsi que le comte de Chambord a fini par décider de parler et de parler au château de Chambord, de se rendre dans son château de Chambord, que Louis-Philippe, pendant tout son règne, avait essayé de lui confisquer. Il n'était jamais arrivé, les tribunaux avaient été tout à fait impartiaux et avaient gardé au comte de Chambord la propriété du château. Et donc Chambord est parti pour son château et il voulait y parler le 2 juillet. Et le 2 juillet a été justement le jour où ont eu lieu les élections partielles pour combler les vides de l'Assemblée. Et les deux partis avaient des idées très différentes. Les gauches pariaient et proclamaient l'avenir, alors qu'au contraire, la droite royaliste pariait sur l'ordre. Il faut bien reconnaître tout de même que aussi bien les républicains que les royalistes étaient tous les deux conservateurs. Ils le seront restés, ils le resteront très longtemps. Les idées de progrès sociaux arriveront bien plus tard. Alors donc, la gauche l'emporte largement dans ces élections partielles. Elle conquiert les trois quarts des sièges en jeu, ce qui fait que la majorité royaliste s'est trouvée diminuée. Mais elle existait toujours et elle restera toujours majoritaire. Il y aura toujours une majorité de royalistes jusqu'au vote instituant de la République, si curieux que ça paraisse. Alors le lendemain, le comte de Chambord, dans son château, a reçu que trois délégués que lui envoyaient les partis de droite, qui étaient des aristocrates, largement bien, bien nés, qui l'ont supplié de ne rien faire de trop discutable, de trop offensif, et en particulier l'ont prêché le goût du drapeau tricolore. Chambord est resté absolument impassible, il n'y a pas du tout question, il n'a pas été question qu'il change d'avis ni qu'il se rallie aux opinions de ses interlocuteurs. Après, on a vu arriver Monseigneur Dupanloup. Monseigneur Dupanloup, évêque d'Orléans, qui n'est plus connu aujourd'hui que par une chanson d'étudiant que je ne vous chanterai pas, mais qui à ce moment-là était une des grandes figures de l'épiscopat français. Et Monseigneur Dupanloup, là non plus, n'a jamais réussi à convertir le comte de Chambord, qui d'ailleurs avait la vieille idée de tous les rois, ses prédécesseurs, qu'il ne faut pas que les prélats se mêlent de politique, ça ne les regarde pas. Alors donc, Chambord est revenu à Paris sans avoir quoi que ce soit changé ses idées, et il a lancé un message où il disait qu'il ne voulait pas devenir le roi légitime de la Révolution. Un message qui a fait très mauvais effet sur l'opinion. Alors, il est retourné à Frohsdorf. Et là, il a commis encore l'erreur de ne pas s'installer à Paris. Se serait-il installé à Paris, aurait-il loué un hôtel à Paris, sa fortune le lui permettait, qu'il aurait pu en faire le centre de sa propagande et d'essayer d'attirer à lui tous les hésitants. Il est resté à Frohsdorf alors que le comte de Paris, lui, s'installait à Paris. Alors, les différents paris, différents partis ont essayé de s'organiser, et en particulier la droite a pris comme chef des ducs, ce qui est bien normal. Le duc de Broglie, qui était le petit-fils de Madame de Staël et aussi sans doute de Benjamin Constant, et le duc d'Audifray-Pasquier. Ça va être les deux grandes vedettes de la droite à l'Assemblée. Et la droite commençait à en avoir un peu assez de Thiers, qui exerçait une véritable dictature et qui ne cachait pas son idée d'établir définitivement la République. Ce qui fait que le 2 avril 1873, la droite a commencé par évincer le président Grévy et de nommer un des leurs à sa tête. Et puis on a commencé à réfléchir à qui on pourrait donner la succession de Thiers. Et à ce moment-là, un nom a été avancé, c'était celui du duc d'Aumale, qui était le fils de Louis-Philippe, qui était un personnage remarquable, intelligent, bon administrateur, très ouvert d'idées. Ça aurait été le président de la République idéal. Et on a été demandé à Chambord qu'est-ce qu'il penserait de ça. Et Chambord a répondu « Je n'admets pas qu'un prince du sang agisse en dehors de son roi ». C'était vraiment tout à fait l'opinion exactement contraire et qu'il ne fallait pas donner. Ce qui fait que l'Assemblée s'est demandé à qui, comment faire pour sortir de cette impasse. Il faut bien dire que Chambord n'a jamais tout à fait compris qu'il y avait une question essentielle à l'Assemblée, c'était d'avoir une majorité. c'est d'avoir un suffisamment grand nombre de députés pour faire passer une mesure. Or, ce n'était pas commode avec ces différents partis de droite. Il fallait donc rassembler tous les partis de droite si on voulait avoir une majorité. Et ça, Chambord n'a jamais compris que c'était une question d'arithmétique. Alors donc, les droites sont arrivées tout de même à leur fin. Le 23 mai, ils ont acculé Thiers à la démission. Et faute du duc d'Aumale, que Chambord et les chevaux légers ne voulaient absolument pas, ils se sont rabattus sur le maréchal de MacMahon. Maréchal de MacMahon, qui était une grande figure militaire, mais qui n'était pas une très grande figure politique. Le maréchal de MacMahon a chargé le duc de Broglie de diriger le gouvernement, gouvernement que l'on a appelé le gouvernement de l'ordre moral, et qui a été le pire gouvernement réactionnaire qu'il y ait eu depuis longtemps, beaucoup plus réactionnaire que les gouvernements du Second Empire ou de la monarchie de Juillet. On a révoquer un très grand nombre de hauts fonctionnaires. À ce moment-là, c'était facile, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. On a mis tout le gouvernement, tout le pays, sous le signe de la révolution, de la religion. Et tout ce gouvernement a été vraiment imbu d'une religion à la fois spectaculaire et offensive. L'Assemblée a organisé d'énormes pèlerinages à Lourdes et surtout à Paray-le-Monial, qui était le siège du culte du Sacré-Cœur. Alors ça, c'est une chose qui est intéressante et qui est peut-être le phénomène social tout à fait le plus étonnant du XIXe siècle. Sans vouloir attenter aux convictions de quiconque, il faut préciser que le culte du Sacré-Cœur est un culte fabriqué, qui n'est basé sur aucune écriture sainte, qui découle simplement des visions de la mère Marguerite Marie à la coque, qui a eu cette vision du cœur enflammé et qui a donné naissance à ce culte qui a eu énormément de succès au XIXe siècle. Aujourd'hui, il existe toujours, mais enfin, il est beaucoup plus discret. À ce moment-là, il avait une très grande importance. Alors, voilà où on était. Les droites ne savaient pas quoi faire. Le comte de Paris, au bout de 2 ans d'attente, s'est décidé à agir. Et il est parti pour Frosdorf pour rendre hommage au comte de Chambord, pour le reconnaître comme le chef de la maison de France et lui dire qu'il ne s'opposerait jamais à lui. Il a été accueilli, bien sûr, avec beaucoup de faveur. Le déjeuner a été très animé, mais il n'y a eu aucun pourparler. Le comte de Paris n'avait mis aucune condition à son ralliement. Et on n'a pas parlé du drapeau tricolore. Donc ça a été vraiment, de la part du comte de Paris, une abdication sans compensation. Mais enfin, il semblait qu'après cette entrevue, la chose était plus simple. Il n'y avait plus qu'un prétendant, le royaliste. On pouvait essayer de le pousser au trône. Il fallait tout de même 360 voix, c'est-à-dire vraiment rassembler toutes les voix de droite et un peu du centre pour constituer une majorité. Et pour préparer cette chose, s'est constituée une commission de 9 membres, la commission des 9, pour voir s'il était possible d'étudier les conditions d'une restauration. Et dans cette commission s'est révélé un député qui s'appelait Chénelon. Chénelon était député d'Orthez. C'était un beau parleur, il avait une éloquence méridionale, un peu l'accent d'Henri IV, il était convaincant, c'était un homme qui essayait de convaincre son auditoire. Et la commission des 9 a décidé de l'envoyer tout seul à Chambord, à Frosdorf, pour discuter avec le comte de Chambord, essayer d'établir avec lui la base d'une restauration. Il a fallu, bien sûr, comme ça se pratiquait toujours à Frosdorf, passer par une négociation de cérémonial, solliciter une audience, passer par le premier gentilhomme de la cour, etc. Enfin, finalement, le Chambord a déclaré qu'il accueillerait M. de Chénelon à Salzbourg. Et c'est donc dans la ville de Mozart que va se passer l'entrevue. Or, la commission des 9 avait donné des instructions à Chénelon. Il lui avait dit, vous partez porteur d'un ultimatum, au comte de Chambord. Il faut lui dire qu'il doit accepter le drapeau tricolore, que sinon il n'y a rien de fait. En échange de ce droit d'emploi tricolore, tout le reste peut s'accommoder comme on voudra. Et Chénelon n'a pas osé lancer à sa première entrevue énoncer cet ultimatum. Un peu impressionné par le descendant des rois, n'a pas osé mettre les cartes sur table, et il a commencé simplement par discuter des différentes modalités de la constitution future. Ils sont très vite tombés d'accord sur tous les points. Deux chambres, le budget voté, etc. Ils ont même réussi à contourner le problème de la responsabilité ministérielle. Chambord aurait voulu que les ministres soient responsables devant le roi. Les députés, eux, voulaient qu'ils soient responsables devant l'Assemblée. C'est ce qu'on appelle un régime parlementaire. Ils se sont arrangés pour tourner une phrase chèvre aux joues qui laissait les choses à peu près en état. Et puis, Chénelon est enfin passé à la question du drapeau. Il a plaidé pour le drapeau tricolore de la façon aussi solennelle que possible. Et puis, il a fini par énoncer des projets de conciliation. Par exemple, un drapeau qui serait tricolore sur une face et blanché sur une autre. Ce qui aurait été une hérésie au lieu des spécialistes de l'uniforme, évidemment. Mais dans toute cette plaidoirie, Chambord l'a laissé parler longtemps et a fini par lui dire à voix basse mais très calme, jamais je n'admettrai le drapeau tricolore. C'était vraiment la fin d'un non-reçoir total. Chénelon a essayé de s'accrocher. Il a obtenu une seconde entrevue dans la soirée, puis une troisième. Et simplement, il a obtenu que la décision au sujet du drapeau pourrait être un peu reculée, que le drapeau ne serait pas immédiatement affiché, qu'on réglerait la question un petit peu plus tard. Et Chambord croyait avoir gagné. Et il a salué Chénelon sur le quai de la gare en lui disant « On se reverra bientôt, on est de revue. » Chenlon a pris le train, il fallait à ce moment-là 32 heures de train pour aller de Vienne à Paris, et dans le train, il a réfléchi. Et il s'est dit, je ne vais pas raconter tout ça, c'est pas possible. Et en particulier, je ne vais pas dire cette phrase de Jean Maur, je refuse le drapeau tricolore. Je vais simplement essayer de mettre en valeur, de me baser sur le peu que nous avons gagné. Alors, à son retour, il a rendu compte de sa mission. Et il a dit, mais vous savez, Chambord a dit que il a promis qu'il donnerait une solution pour au problème du drapeau qui contenterait tout le monde. On n'a jamais su ce que c'était dans la pensée de Chambord. Du coup, Breuil et Audifray Poitier et tous les députés qui les suivaient ont décidé de marcher. Ils ont dit, bon ben, faisons la monarchie, on verra bien ce que ça donne. Et ils ont commandé à un député qui s'appelait Savary un compte-rendu de ses pourparlers de Salzbourg. Et Savary a rédigé un compte-rendu un petit peu tendancieux. Ce n'est pas le premier rapporteur qui profite de son rapport pour insérer quelques idées personnelles. Et il a, dans son compte-rendu, dit que tout était réglé, que l'accord avait été réussi sur tous les points. Bref, ce n'était pas exactement ce qu'il fallait. Et à Frosdorf, pendant ce temps, Henri de Chambord laissait préparer la cérémonie de son avènement. La cérémonie qui était également préparée à Paris à ce moment-là. Et alors, on a commandé pour le comte de Chambord un uniforme de lieutenant général avec bicorne à plumes, épée et grand cordon de la Légion d'honneur. Il n'a pas osé ressusciter l'ordre de Saint-Esprit, mais il se contentait de la Légion d'honneur. Et à Paris, on a commandé deux carrosses superbes que vous pourrez voir dans les caves du château de Chambord, où ils sont exposés. Et on préparait le défilé solennel de l'intronisation, et certaines douairières se commandaient des chaises à porteurs pour pouvoir suivre le cortège. Donc, Chambord se disait que les choses étaient peut-être sur la bonne voie. Mais en même temps, et pour la première fois de cette époque, il hésitait. Il hésitait entre deux choses. La première chose, d'abord, le procès-verbal Savary, ça, il ne pouvait pas l'admettre. Donc, il décidait de le renier, de le démentir. Ça, c'était facile. Mais l'autre chose qui le tarabustait vraiment, c'était la question de sa naissance. Le duc de Berry, son père, pendant l'exil en Angleterre, sous l'Empire, avait vécu avec une jeune Anglaise charmante qui s'appelait Amy Brown, qui lui avait donné deux filles. Et on ne savait pas, et on ne saura jamais, on ne sait toujours pas, si cette union avait été bénie par un prêtre ou un pasteur, ou bien si elle était restée union libre. Et de toute façon, que cette union ait été bénie ou non, Louis XVIII, en revenant en 1814, avait décidé ce mariage, cette union ne vaut rien, car elle a été conclue sans mon autorisation, et il n'en est pas question, il faut que le duc de Berry épouse une princesse royale. Et il avait donc marié le duc de Berry à Marie-Caroline des Ducs de Sicile, qui avait eu comme enfant notre comte de Chambord. Ainsi, Le pape n'avait rien dit, l'Église de France non plus. Et le comte de Chambord s'estimait en règle avec l'Église. Mais lui qui était fervent chrétien ne manquait pas de se dire qu'il n'est pas admis que l'homme brise ce que Dieu a uni. Et que par conséquent, si vraiment il y avait eu mariage religieux, ce qu'il ne savait pas, mais ce qui était possible, à ce moment-là, lui n'était qu'un bâtard. Et alors, jusque-là, il avait bien pu combattre pour le prestige monarchique, pour la restauration d'un roi en règle, mais s'il était investi, comment aborderait-il cette cérémonie qui marquait l'alliance entre Dieu et le règne, c'est-à-dire le sacre? Personne à Paris, à ce moment-là, ne parlait de sacre, mais lui, le comte de Chambord, il pensait sans arrêt. Je ne peux pas supposer que moi, bâtard, si j'étais bâtard, puisse affronter le sacre. Alors, dans l'impossibilité de prendre un parti, parce que par manque d'informations, il a décidé que c'est la Providence qui déciderait. Il s'en rapportait à ce qu'il a appelé l'heure de Dieu. Si les députés l'acceptaient, s'ils acceptaient le drapeau blanc, s'ils l'intronisaient, eh bien c'est que le ciel était d'accord et qu'il était véritablement fils de France. Si, au contraire, la Chambre refusait sa candidature, eh bien à ce moment-là, c'est qu'il n'était que bâtard et le ciel s'était prononcé. Voilà dans quel tournure d'esprit il abordait le dernier acte de l'histoire. Tout de suite, il a réfuté le procès-verbal Savary en envoyant une lettre. Il croyait que cette lettre n'aurait pas d'importance, qu'il pensait que le procès-verbal serait modifié, c'était pas très important, ça ne changeait pas les choses. Mais à la lecture de cette lettre, les députés se sont rendus compte qu'il n'y avait plus possibilité, que c'était fini du comte de Chambord, qu'on ne pouvait plus se baser sur lui. Alors, tout ce qu'on pouvait faire, ont-ils pensé, c'était de prolonger le mandat du maréchal de MacMahon en espérant que Chambord allait mourir. Et quand il serait mort, la couronne irait sans problème au comte de Paris. Et à ce moment-là, il y a toute une classe politique qui espérait la mort dans pas trop longtemps du comte de Chambord. Et on raconte qu'un évêque mondain qui disait dans les salons: « Seigneur, ouvrez-lui les yeux ou alors fermez-les-lui. » Alors, dans l'attente de l'Assemblée qui allait statuer sur la prolongation du mandat du maréchal, le comte de Chambord a décidé de faire un dernier effort. Il est parti pour Versailles. Il est parti pour Versailles, mais non pas comme il aurait pu le faire au grand jour et en rassemblant ses partisans. Il est parti incognito, sans le dire à personne, sans prévenir ses partisans à l'Assemblée. Et il est allé s'installer dans un tout petit pavillon qui existe encore, il y a une plaque dessus, que lui avait prêté un de ses gentilshommes. Et là, il est resté plusieurs jours face à l'uniforme de lieutenant général qui était étalé sur un divan et qu'il l'endossait de temps en temps. C'était donc une une venue entièrement clandestine. Et Chambord a voulu imaginer un plan qu'il méditait depuis plusieurs jours. Il a envoyé son gentilhomme, M. de Blacas, voir MacMahon, en lui proposant que lui-même, Chambord et MacMahon, se présentent tous les deux à l'Assemblée et que l'Assemblée serait soulevée d'un mouvement d'enthousiasme et qu'elle rétablirait la monarchie d'un seul coup. C'était complètement péril. Et surtout, MacMahon, ça a refusé absolument. MacMahon était homme d'ordre. Il n'avait aucune envie de se compromettre dans cette espèce de coup d'État. Il a donc opposé un refus absolu à Blacas. Blacas est rentré et a raconté l'entrevue à Chambord, qui, pour la première fois, a plongé dans un désespoir et dans une méditation totale. Il a enfin compris que c'était fait, que c'était fini, que c'était achevé, et que c'était peut-être sa faute. Pendant 2 heures, il a médité et il est sorti de cette méditation en disant, en allant voir MacMahon, je croyais avoir affaire à un connétable de France, ce n'était qu'un capitaine de gendarmerie. Donc c'était fait, c'était fini. La prolongation du mandat de MacMahon à 7 ans a été votée. C'est comme cela que on a institué le mandat de 7 ans qui va durer jusqu'à il y a quelques années. Et Chambord est resté encore quelques jours à Versailles et il est reparti pour Chambord, pour Frohsdorf. C'est le 19 novembre 1873 qu'a été voté le septennat par 68 voix de majorité, qui prouve que les royalistes avaient toujours la majorité et qu'ils auraient pu, avec ce même nombre, voter la Restauration. Et il avait fallu 4 ans pour sortir de ce dilemme. C'est en février 75, donc 4 ans après la première réunion de l'Assemblée, qu'un député, qui était un homme tout à fait respectable, très religieux et très membre de l'Institut, et qui se nommait Vallon, a proposé un amendement disant « Le président de la République est élu par les deux chambres ». Et cet amendement suffisait pour établir la République dans les institutions de la France. Et cet amendement a été voté à une voix de majorité. Alors que les royalistes étaient toujours majoritaires, ils étaient tellement désespérés qu'il y en a un certain nombre qui ont voté pour ce qu'ils estimaient être une sorte de monarchie républicaine, en donnant au président de la République beaucoup de pouvoirs, en lui donnant des pouvoirs un peu comparables à ceux d'un roi constitutionnel. Mais ils n'avaient pas compté avec l'arrivisme des députés républicains qui n'auront qu'une idée, c'est de confisquer le pouvoir pour eux-mêmes et pour cela de finalement n'élire comme président de la République que des médiocres, des braves députés de second ordre qui ne chercheraient pas à bousculer le jeu politique. Et c'est ce qui a donné naissance à cette tare qui a, atteint la Troisième et la Quatrième République et qui était l'instabilité ministérielle et qui a duré jusqu'à ce que nous en délivre le général de Gaulle. Le comte de Chambord, à Frosdorf, a assisté, dans le regret, à ces événements, et il est mort en 1883, et son cortège funèbre, accompagné bien entendu de drapeaux blancs, a accompagné son corps jusqu'à la crypte de Castagnavita, qui à ce moment-là se trouvait en Italie et qui est maintenant aujourd'hui en Slovénie, et que vous pourrez aller voir, où le cercueil de Chambord a été mis juste en face de celui de Charles X. Chambord était un homme loyal, consciencieux, plein de désir de vérité et de justesse, mais il était totalement séparé de son époque. Il n'a jamais compris qu'il était dans une époque différente qui ne supportait pas, la théorie dont il était l'exemple. C'est tout. Je suis bien entendu à la disposition de ceux qui voudraient poser des questions, si je suis capable d'y répondre.
Alors c'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Donc effectivement, on peut avoir un temps de questions-réponses ici, mais également ensuite, nous prolongeons cette conférence autour d'un verre dans le salon qui est à côté. C'est l'avantage de ces formules en comité plus restreint dans l'appartement des amis. Est-ce qu'il y a des questions ?
Oui, je vous en prie, monsieur.
Oui. Bon, mais
parlez un peu fort.
Vous dites qu'il était un peu en dehors de son temps, mais ça prouve peut-être aussi une part d'incompétence de sa part aussi. Il n'était peut-être pas fait pour ce niveau de responsabilité.
Absolument. Il n'a jamais été élevé dans cette optique-là.
Non. Ni élevé, ni peut-être l'intelligence suffisante pour surmonter toutes ces difficultés de conviction.
Mais oui, lui qui était grand lecteur et qui avait une bibliothèque très, très fournie, ne s'est jamais donné la peine d'ouvrir tous les théories de Louis Blanc, de Ludro Rollin, de Victor Hugo même, qui lui aurait donné une autre idée.
Il était braqué.
Oui, monsieur.
S'il avait régné, il aurait régné sous quel nom ?
Un peu plus fort, si vous permettez.
Sous quel nom aurait-il régné s'il avait régné ?
Henri V, il se prenait pour Henri V. Et il estimait qu'Henri IV était un modèle. Or, Henri IV aurait bien dit « Paris ne vaut bien un drapeau ».
Vous avez parlé de la maison où il a vécu quelques jours à Versailles.
Un peu plus fort.
Vous parliez de la maison dans laquelle le comte de Chambord a vécu à Versailles quelques jours. Où se trouve cette maison ?
Oui, c'est rue Saint-Louis. C'est tout près de la cathédrale.
Ah bon ?
C'est un pavillon avec une plaque dessus. Et les locataires de ce pavillon avaient été priés d'aller camper au deuxième étage pour libérer la place pour le comte de Chambord.
Mais, pardon.
Je vous en prie.
Il est étonnant qu'il n'y ait pas eu, qu'on ait envoyé à chaque fois un seul député pour essayer de convaincre le comte de Chambord. Il aurait fallu une délégation sans doute un peu plus étoffée.
Oui, on en avait envoyé à plusieurs reprises, des couples, il y a eu plusieurs démarches.
Ah bon ?
Mais Chambord n'était pas très accessible non plus.
Non plus, oui.
Il était gros, barbu, l'air majestueux. Au moment des pourparlers de Chartres, de Chambord, il a dit si j'acceptais ce que vous me proposez, je ne serais plus qu'un gros homme boiteux.
Bien, écoutez, je vous propose de. prolonger la discussion.
Je suis à la disposition de ceux d'entre vous qui voudraient une signature.
Là aussi, il y a quelques ouvrages également présents.
Je vous ai dit, Thank you. Il a oublié, c'est à Monsieur Poisson.
Non, c'est
moi. Ah, c'est
le truc, il est arrêté, l'enregistreur. C'est pas grave, il faudra couper un peu, c'est tout.